Vous écoutez On lit pour vous.
Un nouveau guichet pour accélérer le diagnostic des maladies rares. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir. Pour mettre fin à l'errance médicale que vivent de nombreux patients, Québec a annoncé lundi la création d'un guichet d'orientation en ligne visant à accélérer le diagnostic des maladies rares. Une maladie est dite rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000. Près de 8 % de la population, donc environ 700 000 Québécois, vivent avec l'un de ces problèmes de santé. Il s'agit entre autres de dystrophies musculaires comme celle de Duchenne qui cause une dégénérescence progressive des muscles. La province compte plus de 500 cliniques spécialisées en maladies rares, réparties dans 17 établissements. Or, plusieurs personnes attendent longtemps avant d'avoir un diagnostic. Le nouveau guichet, qui s'inscrit dans le réseau national de navigation clinique en maladies rares, se veut une porte d'entrée pour orienter plus rapidement les patients vers les cliniques appropriées. Les demandes, reçues via des formulaires en ligne, seront analysées par des équipes spécialisées qui détermineront vers quelles ressources la personne doit être dirigée selon son profil et ses symptômes. Autant les adultes que les enfants pourront bénéficier du nouveau service. L'objectif est de réduire les délais de prise en charge pour limiter l'évolution de la maladie lorsqu'un traitement est disponible, précise le cabinet de la ministre de la Santé, Sonia Bélanger. Le gouvernement n'a toutefois pas chiffré le coût du nouveau service, se contentant d'indiquer qu'il sera peu onéreux. Cette initiative découle de la politique québécoise pour les maladies rares, dévoilée en 2022. Celle-ci vise notamment à accroître l'accès aux soins et aux services pour les patients atteints de ces problèmes médicaux, ainsi qu'à promouvoir la recherche dans ce domaine. Très attendu. Le nouveau guichet est une demande de longue date du regroupement québécois des maladies orphelines, indique son directeur général, Jonathan Pratt. Au Québec, on parle en moyenne de 5 à 7 ans pour diagnostiquer une maladie rare. On estime que la création du nouveau réseau va justement diminuer cette moyenne, souligne-t-il. M. Pratt souhaite également la mise sur pied d'un registre québécois des maladies rares à l'image de celui existant pour le cancer. Selon lui, disposer de données précises sur le nombre de personnes touchées permettrait de mieux orienter la recherche, le suivi et les soins. Si on sait, grâce au registre, qu'il y a 1000 personnes atteintes d'une maladie pour laquelle on n'a pas de médicaments, on pourrait ouvrir des concours pour des chercheurs pour travailler là-dessus. De découvrir des traitements pour aider les gens d'ici, ça faciliterait beaucoup les choses, soulève-t-il. C'était un nouveau guichet pour accélérer le diagnostic des maladies rares, un texte de Florence Morin-Martel paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir.
La détox de dopamine, fausse bonne idée? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 22 février 2026 dans La Presse. Une lectrice, Nicole Blais, demande « Est-ce que la détox de dopamine fonctionne? » Les études se contredisent et les partisans de la détox de dopamine offrent peu de preuves appuyant cette approche qui a la cote sur les réseaux sociaux. L'expression n'est pas très bien définie et frise parfois la pseudo-science, estime Anne Julien, neuropsychologue au CUSUM. Le sujet revient souvent chez ces patients, particulièrement chez ceux vivant avec un TDAH. Ils essaient de comprendre depuis tellement d'années ce qui ne fonctionne pas avec leur comportement, pourquoi ils n'atteignent pas leurs objectifs. La dopamine est une molécule du cerveau liée au sentiment de récompense, d'agentivité, avoir le contrôle, et qui donne un sens dans la vie, explique la neuropsychologue montréalaise. Le danger avec le terme « détox », c'est qu'on ne cible que le côté récompense de la dopamine, souligne-t-elle. Si la dopamine descend trop bas, poursuit-elle, on a des problèmes de santé mentale. Mais si on va en forêt, la dopamine augmente. Et c'est justement ce qu'il faut pour les patients TDAH. Il faut qu'ils sortent de leur tête, qu'ils aillent en forêt, qu'ils aillent voir des gens physiquement. Si on se prive de certaines activités comme manger compulsivement ou regarder son téléphone ou de la porno, pour diminuer la quantité de dopamine dans le cerveau, on s'éloigne de l'objectif de toute thérapie, à savoir parvenir à un équilibre entre nos habitudes, dit Madame Julien. Si je veux réduire la place de mon téléphone dans ma vie, il faut que j'apprenne à prendre soin de moi avec mon téléphone, à avoir un plaisir résiduel de l'usage que j'en ai fait. C'est la même chose avec un gâteau. Il faut que j'aie du plaisir avant, pendant et après. Terme contre-productif. Un psychologue californien, souvent surnommé le père de la détox de dopamine, Cameron Sipa, veut redéfinir cette approche pour éviter les critiques de chercheurs spécialistes de la dopamine qui considèrent qu'il est potentiellement dangereux de vouloir diminuer à tout prix la quantité de dopamine dans son cerveau. Selon la définition de M. Sipa, il s'agit surtout d'éviter les pics de dopamine associés à la fréquentation maladive de l'Internet. M. Sipa a toutefois refusé les demandes d'entrevue de la presse et s'est contenté de citer, à l'appui de son approche, deux études sur la thérapie cognitivo-comportementale pour la dépendance à l'Internet et à Facebook. Les spécialistes de la dopamine et les chercheurs en neurosciences trouvent qu'utiliser le terme « détox de dopamine » est au mieux contre-productif en induisant une obsession sur le comportement qu'on veut éviter. Voire dangereux, si les gens se disent qu'il faut absolument qu'ils réduisent leur dopamine et trouvent un moyen pour le faire. Travaux mal compris. La seule étude scientifique sur la détox de dopamine, publiée en 2024 dans Curious, est une revue de littérature qui cite quelques études sur la dopamine. L'auteur de l'une de ces dernières, le neuroscientifique Joshua Berk, de l'Université de Californie à San Francisco, estime que ses travaux ont été mal compris par l'étude de Curious. Quand on a commencé à étudier la dopamine, c'était dans le cadre des circuits de la récompense qui sous-tendent les dépendances, dit M. Burke. Quand on avait le comportement de la dépendance, la drogue ou le jeu compulsif, il y avait un pic de dopamine. Donc, moins de dopamine, moins de compulsion. Mais depuis 20 ans, on s'est rendu compte que c'est plus compliqué. Oui, quand on a de grands plaisirs, il y a des pics de dopamine. Mais, avec le Parkinson, on a moins de dopamine. Elle semble liée à de la vigueur affective, intellectuelle et physique. Elle nous aide à déterminer combien d'énergie consacrée à différentes tâches. Elle joue un rôle dans nos décisions et notre motivation. Une autre grande fausseté à la base de la détox de dopamine, c'est qu'elle serait comme une hormone ou une substance qui est bonne ou mauvaise selon qu'elle est plus ou moins présente, dit M. Burke, dont les recherches portent sur la motivation et la prise de décision. Ce n'est pas comme s'abstenir de prendre de l'alcool ou du sucre pendant un certain temps. Les cycles de la dopamine sont très dynamiques. Parfois, ils sont à la baisse, parfois à la hausse, de manière tout à fait normale. Oui, on utilise des médicaments pour diminuer la dopamine, mais c'est pour contrer les psychoses. On ne les utilise pas pour les dépendances. En savoir plus, source Clinical Psychological Review, 25% proportion de la population mondiale qui souffre de dépendance numérique. C'était la détox de dopamine, fausse bonne idée, un texte de Mathieu Perrault, paru le 22 février 2026 dans la presse.
Bonne nouvelle, c'est une fille. Un texte d'Olivia Lévy, paru le 19 octobre 2025 dans la presse. De nombreux parents souhaitent désormais avoir une fille. Pendant des siècles, la préférence était marquée pour les garçons. Pourquoi cette tendance change-t-elle? Les filles sont-elles plus faciles à élever? Le magazine The Economist titrait le 5 juin 2025 « Phew, it's a girl », un article qui démontre que la préférence des parents pour les filles émerge dans de nombreux pays. Le magazine britannique révèle que la pratique consistant à avorter lorsque l'on sait que le bébé sera une fille simplement parce qu'il s'agit d'une fille est maintenant beaucoup moins courante, notamment en Chine, et qu'aujourd'hui, les parents ont même tendance à les privilégier. Parmi les bébés nés en 2000 à l'échelle mondiale, 1,6 million de filles manquaient à l'appel par rapport au nombre attendu entre les sexes à la naissance. Cette année, ce chiffre devrait être de 200 000 et il continue de baisser selon des économistes. Pourquoi cette préférence? Plusieurs hypothèses sont avancées. Les filles sont plus calmes et plus faciles à élever. Elles sont meilleures à l'école, elles prennent soin des parents vieillissants. C'est une idée préconçue de dire que les filles sont plus faciles à élever que les garçons, selon la psychologue Laurie Zéphir. Notre société a tellement valorisé l'image de la petite fille gentille, calme, qui ne bouge pas et qui ne cause pas trop de problèmes, mais la réalité, c'est que les filles peuvent être tout aussi énergiques et sportives que les garçons. Laurie Zéphir rappelle que chaque enfant vient avec son tempérament et son lot de défis, quel que soit son sexe. La psychologue est consciente que les stéréotypes perdurent, car elle voit dans son bureau de future mère qui s'inquiète. Elle pense qu'élever un garçon, ce sera plus difficile et synonyme de problème de comportement, qu'il sera plus agité qu'une fille. Il faut éviter de répandre ce message qui généralise un individu à son sexe. Les projections qu'on a sur les petites filles ne sont pas les mêmes que celles qu'on a pour les petits garçons. On associe par exemple l'agressivité aux garçons, le décrochage scolaire, le sport, le hockey, le soccer, alors qu'on a l'image d'une petite fille avec une jolie robe et des couettes, et on se dit qu'elle sera douce, obéissante et potentiellement plus attentionnée et plus présente pour les parents, analyse Laurence Charton, professeure au Centre Urbanisation, Culture et Société à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS à Montréal. Cette dernière souligne aussi que la société a évolué. Les femmes font des études. Elles s'assument seules et ont accès aux mêmes emplois que les hommes. Il y a désormais une certaine égalité entre les hommes et les femmes, et l'intérêt marqué pour les garçons s'estompe. Les lois ont effacé certaines inégalités, évoque Laurence Charton, professeure au Centre Urbanisation, Culture et Société à l'Institut national de la recherche scientifique. Par exemple, les femmes peuvent désormais transmettre leur nom de famille et l'autorité parentale n'est plus réservée aux hommes comme avant. Ce sont des éléments sociaux qui ont contribué à l'égalité des sexes et l'intérêt d'avoir un garçon est moindre par rapport aux bénéfices d'autrefois. Laurence Charton pense que cette préférence pour les filles apportera un certain rééquilibrage dans certaines sociétés. On sait qu'en Chine, le fait d'avoir longtemps préféré les garçons, il y a eu des avortements sélectifs, a créé un vrai déséquilibre démographique. On souhaite avoir des filles aujourd'hui parce qu'il y a un déséquilibre très fort. Vouloir tout choisir. Cathy Fengsk, qui anime un balado, Burnt Pancakes, sur la maternité, est mère de trois garçons. Elle avoue avoir vécu une immense déception lorsqu'elle a su qu'elle attendait un deuxième garçon. « J'ai vécu une période de deuil. J'étais vraiment triste parce que je m'étais toujours imaginé avec une fille et je me suis dit que mon rêve ne se réaliserait jamais. Pas de robe de princesse. Pas de robe de mariée à magasiner. Je suis très près de ma mère et je me disais que plus tard, je n'aurais pas la même complicité avec mes fils, car on dit souvent qu'ils partent loin de leur famille, contrairement aux filles, confie-t-elle en entrevue. Julie Peters partage cet avis. Elle a deux fils, vit à Edmonton, et lorsqu'elle a découvert qu'elle attendait un garçon, elle s'est mise à pleurer. J'étais surprise de réagir comme ça. Je suis féministe, alors j'avais imaginé élever une fille et je me suis dit que je ne saurais pas élever un garçon. Mon mari voulait une fille, il voulait vivre le « daddy's girl », la chouchoute de son père. Elle se rend compte finalement que les futurs parents se projettent beaucoup trop et qu'eux-mêmes ne savent pas quel type de parents ils deviendront. La psychologue Laurie Zéphir voit des mamans qui sont enceintes de leur deuxième garçon et qui sont déçues. Elle pense qu'il faut accepter la réalité et qu'on ne choisit pas le sexe de notre enfant malgré les conseils de grand-mère. On doit déconstruire la vision selon laquelle mon enfant va correspondre à tous les stéréotypes liés au sexe. On voit dans les familles, par exemple, qu'on donnera comme jouet une poupée pour les filles et une voiture pour les garçons. Il faut se laisser la chance de découvrir notre enfant au-delà de son sexe. La sociodémographe Laurence Charton estime qu'on vit dans une société de plus en plus individualiste et que beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils veulent quelque chose, ils peuvent l'avoir, même choisir le sexe de leur enfant. On veut tout maîtriser tout le temps, et nos désirs doivent non seulement se réaliser, mais là, tout de suite, ou presque. C'était « Bonne nouvelle, c'est une fille », un texte d'Olivia Lévy, paru le 19 octobre 2025 dans La Presse.
Des psychiatres dénoncent le manque de nouveaux postes malgré les besoins criants. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 24 janvier 2026 dans Le Devoir. En raison de la hausse marquée des besoins en santé mentale, itinérance et toxicomanie dans leur milieu, des psychiatres dénoncent le refus de Santé Québec d'autoriser l'ajout de postes dans leur département. Ils craignent de ne plus être en mesure de desservir adéquatement les populations les plus vulnérables. au centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, le nombre de personnes en situation d'itinérance qui se présentent à l'urgence pour des services en santé mentale a pratiquement doublé en 4 ans. Souligne le docteur Didier Jutras-Aswad, chef du département de psychiatrie de l'établissement. À cette hausse s'ajoutent des besoins croissants en toxicomanie, constate le médecin. La forte toxicité des substances qui circulent actuellement sur le marché entraîne des problèmes de santé mentale le plus sévères et qui apparaissent plus rapidement. Dans ce contexte, le CHUM a demandé, au printemps dernier, l'ajout de 3 postes de psychiatres, une requête qui a été refusée. Cette demande s'inscrivait dans le cadre du plan des effectifs médicaux 2026-2028, adopté par Québec, pour fixer le nombre de postes autorisés par spécialité médicale pour ces 3 années. Dans la plus récente version, dévoilée en novembre 2025, seulement 2 nouveaux postes ont été accordés en psychiatrie adulte pour l'ensemble de la province, 1 à Laval et 1 dans les Laurentides. C'est décevant et très préoccupant. On a une situation très critique, avec des besoins qui explosent actuellement et pour lesquels on n'aura pas les effectifs médicaux pour y répondre, affirme le docteur Jutras-Aswad. Déception aussi à Québec. La docteure Renée Robichaud, chef de département de psychiatrie au CIUS de la Capitale-Nationale, avait demandé 4 postes en psychiatrie adulte, dont 2 destinés à couvrir les besoins en itinérance et toxicomanie. Elle n'en a obtenu aucun. On est très déçus. L'objectif était d'assurer une meilleure continuité et fluidité des soins. Elle observe aussi une transformation du profil des patients qui se présentent aux urgences. Les gens arrivent en crise encore plus souffrants et avec des problématiques plus complexes qu'avant. On voit, par exemple, des personnes à la fois en psychose, en situation d'itinérance et qui consomment. Ce sont ces patients qui risquent d'en payer le prix avec le temps, si on n'est pas capable de mieux les desservir et de s'organiser. La pression est d'ailleurs déjà bien réelle sur le personnel médical qui s'occupe de ces populations vulnérables, poursuit la docteure Robichaud. Les psychiatres sont un peu les chefs d'orchestre, fait-elle valoir. Ils travaillent en équipe multidisciplinaire et doivent fournir beaucoup de temps pour essayer de trouver des solutions pour créer des liens, ainsi qu'assurer une continuité et une prise en charge de cette clientèle. Poste vacant. De son côté, Santé Québec se dit consciente de la charge qui pèse sur les équipes en santé mentale. C'est pourquoi nous travaillons à renforcer le recrutement et la rétention des psychiatres et à l'optimisation des équipes multidisciplinaires, indique ses relations médias. La Société d'État invoque toutefois le nombre élevé de postes vacants. À l'échelle provinciale, il y en a actuellement 67 qui sont non pourvus en psychiatrie adulte, notamment parce que certains médecins choisissent de pratiquer au privé. Santé Québec affirme aussi qu'il y a présentement plus de besoins que de psychiatres pour y répondre. D'après ses projections, Santé Québec estime que même sans ajout de postes, nous terminerons avec environ 70 postes vacants d'ici décembre 2028. Un chiffre combinant les postes en psychiatrie adulte et pédiatrique. Selon elle, ajouter des postes dans des régions très attractives, comme Montréal, pourrait accentuer les inégalités et nuire au recrutement dans les régions périphériques ou éloignées, où les postes vacants sont plus nombreux. La docteure Claire Gamache, présidente de l'Association des psychiatres du Québec, est du même avis. Elle avait cependant proposé, notamment, l'ajout d'un poste au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal en raison des multiples enjeux au centre-ville. Sans succès. Le docteur Didier Jutras-Assouad estime qu'il faut aller au-delà de l'idée que, puisqu'il y a des postes non comblés à un endroit, on ne peut en ajouter nulle part ailleurs. Il juge que cette approche n'est pas la meilleure pour répondre aux besoins de la population. Il invite aussi à nuancer l'opposition entre centres urbains et régions en matière de postes en psychiatrie. Il faut se défaire de l'idée qu'il y aurait trop de ressources dans les grandes villes et pas assez en région. Certains endroits éloignés vivent effectivement des situations très difficiles. Je suis très sensible à ça. Mais dans certaines autres régions au Québec, les indicateurs d'accès en santé mentale sont très bons. Un processus à revoir? Pour le docteur Didier Jutras-Assouad, le problème dépasse la simple répartition des postes. La planification des effectifs médicaux, dit-il, est un exercice complexe qui nécessite davantage de souplesse. Il doit pouvoir tenir compte de l'évolution rapide des besoins dans certaines régions du Québec. Ce n'est pas le cas actuellement. On aurait besoin de mécanismes plus raffinés et plus dynamiques pour y parvenir, soutient-il. Questionné à ce sujet, Santé Québec indique que des réflexions sont en cours pour rendre la planification plus agile. C'était « Des psychiatres dénoncent le manque de nouveaux postes malgré les besoins criants ». Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 24 janvier 2026 dans Le Devoir.